Bonjour chers amis auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième émission au château de Lantis, dans le cadre de l'émission À voir château dans le Lot. Bonjour Françoise Damien-Barbiette.
Bonjour chers auditeurs, ravie de vous retrouver.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour Madame et bonjour à tous.
Toujours en forme, bien sûr.
Ah oui, bien sûr. Voilà,
toujours avec nous. Alors, chers auditeurs, vous n'avez peut-être pas écouté la première émission que vous pouvez retrouver de toute manière en podcast sur le site de Radio Présence. Nous avons parlé avec Françoise, enfin c'est Françoise bien sûr qui a parlé, de cette historique et de cette découverte suite à un achat de terrain pour venir en vacances. Et quelle découverte, puisque Françoise et son époux ont découvert le château de Lantis avec cette belle et riche histoire devant laquelle on reste bouche bée parce que c'est tellement extraordinaire. Alors, Françoise, la semaine dernière, nous étions restés sur 1790. Donc cet achat de château, toute cette histoire autour du château. Donc 1790, nous sommes tout près de la Révolution puisque c'était en 1789. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce château? Parce que quand vous l'avez découvert, il était quand même, vous ne voyez qu'un pigeonnier apparemment. Donc vous avez découvert tout ce château en faisant des fouilles, en essayant de retirer toute cette terre qui le recouvrait, tous ces arbres, cette forêt. Pourquoi ce château a été muré et pourquoi ce château a été enterré par la population, je suppose, ou par le peuple français à ce moment-là? Expliquez-nous.
Voilà, alors ce château appartient donc au Clermont de Touchebœuf, une famille tombée en disgrâce sous Louis XIII, parce qu'évidemment, produire des armes, les vendre et peut-être, comme tous les marchands d'armes, ne pas être bien clair, va provoquer la colère de Louis XIII, qui va assigner cette famille Clermont de Touchebœuf sur leur terre, dans le Quercy, privée de privilèges. À la suite de déboires, évidemment, au fur et à mesure du temps qui passe, cette famille ruinée achète la charge d'avocat syndic, va défendre le peuple contre le roi, ce qui était quand même inédit avant la Révolution française. Et comme toutes les familles, soupçonnant qu'une révolte importante, on parlait de révolte et non pas de révolution, va décider d'émigrer aux Amériques en 1787. Alors qu'arrive-t-il en 1787? C'est un château déjà en très mauvais état, ruiné, puisqu'ils n'ont plus eu les moyens de financer aucun travaux depuis presque 200 ans, qui va être vendu à l'encan à la Révolution française comme bien d'émigrés. Un paysan du village nommé Tessandier, va acheter l'ensemble, donc la colline, la motte castrale et la ruine, et évidemment n'habitera pas ce château de peur de subir les représailles des révolutionnaires. Donc il se fait construire une jolie maison en 1793 sur la motte castrale, maison dans laquelle il va remiser avec beaucoup de précautions tous les documents administratifs, notariés, successoraux du bâtiment. Alors, qu'advient-il du château? Eh bien, personne ne voudra le démolir. Il ne servira pas de carrière de pierre, il ne sera pas brûlé, il ne sera pas pillé. Il ne servira pas de base pour les tags, pour les graffitis non plus. Il va être caché.
Donc, caché.
Très vite.
Expliquez-nous ce mot caché, parce que effectivement, vous nous l'aviez expliqué lorsque nous avons rencontré pour faire cette émission, faire ces émissions. Le château a été caché, ce qui est quand même assez extraordinaire.
Un château caché de manière à ne pas être démantelé.
Pour le protéger.
Contrairement à beaucoup d'autres châteaux français qui ont brûlé, qui vont servir de carrière de pierre.
Oui, là, nous sommes à l'inverse de la Révolution française, en fait.
Tout à fait, de l'histoire de France.
De l'histoire de France.
Oui, oui, on est sur la base d'un territoire protégé par son seigneur, ce seigneur qui a certainement quelques dissidences avec le roi de France, étant donné la disgrâce qui est tombée sur leur famille, c'est-à-dire pas sur le personnage sous Louis XIII, mais sur toute la descendance. Par esprit de revanche, peut-être, il va défendre la population. Alors, la population va cacher le château. C'est-à-dire que, très intelligemment, ils vont murer les portes, les fenêtres et les remplir avec les pierres que l'on sort des champs, avec la terre, avec les tuiles, on change sa toiture, on jette ses tuiles, on jette ses ardoises, on jette ses lauzes, on jette ses poutres, on jette ses tonneaux de vin brisés, on jette sa vaisselle, on jette toutes les ordures.
Et dans le château.
Dans le château.
Donc ça devient une décharge.
En fait. Ça devient une décharge. Ça devient une décharge. Et ce qui est remarquable, c'est que tout sera préservé. Donc on va rien démolir. On va au contraire cacher, murer, préserver, de manière à ce que, si providentiellement la révolte s'arrête, que le Seigneur puisse revenir des Amériques, eh bien, on puisse à nouveau exercer une justice qui soit favorable à la population. Mmh. Alors, c'est pas comme ça que ça va se passer, évidemment. Le Seigneur ne reviendra jamais, on ne trouvera pas de traces de cette famille, donc peut-être ont-ils fait naufrage, ou peut-être ont-ils eu des filles qui ont changé de nom.
Et oui, pour éviter peut-être d'être retrouvées.
Éviter d'être retrouvées. Le roi, eh bien, subira le sort, toute la famille royale que l'on sait, et il n'y aura plus de restauration avant longtemps. Et donc, ce bâtiment va disparaître de la mémoire. D'autant plus que, bon, imaginez ce monde de gravats qui se forme. Et en 1807, toute la France était en litige, parce que les documents administratifs, les droits de propriété, avaient brûlé dans les paroisses. Donc la France était sans dessus-dessous, après la Révolution, en 1793, 94, 95, et toute la France était en litige, puisque rien n'empêchait un individu de revendiquer l'appartement, la maison ou la terre de son voisin, puisqu'il n'y avait plus de preuves.
Et oui, effectivement.
Alors, pour résoudre ce problème, Napoléon, arrivant au pouvoir, va remettre l'administration en place et nommer ce qu'on appelle des géomètres, qui vont parcourir la France, cadastrer la France, bien délimiter avec des bornes les propriétés des uns et des autres, et à Lantis, en 1807, le géomètre qui arrive, que va-t-il voir? Le haut d'une tour qui émerge de la terre, des arbres peut-être qui commencent à pousser de ci, de là, et il va déterminer que là, on a un pigeonnier. Il n'y a plus de château.
Ah oui, donc il n'existe plus.
Il n'existe plus. Donc, depuis 1807, la colline et le pigeonnier seront revendus à des cultivateurs au fur et à mesure des successions, des ventes, en tant que pigeonniers. Et c'est cela que nous allons acheter en 1993.
D'accord, avec une petite forêt, bien sûr. Alors, au fur et à mesure des années, des décennies, effectivement, la terre a monté. Ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette forêt?
Alors, cet endroit, donc abandonné, oublié, va servir de décharge. La terre va s'amonceler jusqu'en 1920, où là, l'endroit étant certainement rempli, la décharge changera de place et la nature dans le Lot vigoureuse va reprendre sa place et on aura là une forêt avec des arbres magnifiques qui vont pousser, des chênes, tous les arbres, des figuiers, tous les arbres du Lot qui vont prospérer sur la colline.
Et là arrive la famille Damien Barbiette. pour les vacances que vous aviez choisies.
Voilà.
Un lieu que vous avez choisi.
Voilà. Donc, nous arrivons cherchant un terrain pour passer les vacances avec nos enfants. Les premières années, évidemment, on ne soupçonne absolument rien. On achète un terrain un peu arboré, on est ravis, une petite forêt, des oiseaux qui chantent, des petits écureuils, c'est parfait pour passer les vacances. Et puis, quelques années plus tard, donc en 1996-97, on va commencer à nettoyer le haut de la colline dans le but d'habiter, de créer une petite maison pour passer les vacances, un petit 40 mètres carrés, quelque chose de tout petit. Alors, on va commencer à enlever la terre, les cailloux, on va découvrir évidemment beaucoup de pierres. Étant complètement ignorant, on ne comprend pas pourquoi les pierres sont rectangulaires ou carrées. C'est pas la pierre du Causse, c'est de la belle pierre que l'on va aligner au bord de la route pour faire un muret. Et puis, on va découvrir un conduit de cheminée, et puis une cheminée, puis des dallages, des escaliers, d'autres salles, d'autres escaliers. Et ceci, donc, c'est un dégagement de gravats, puisque ce ne sont pas des fouilles. Les fouilles, c'est dans un but archéologique. Mmh. Et là, on enlève simplement ce qui a été jeté par les paysans, qui n'a pas de valeur architecturale ni archéologique.
Et donc, quand vous découvrez, vous retrouvez des débris de charrettes, de vaisselle, etc., qui avaient été mis par le peuple à ce moment-là.
Voilà.
Enfin, lors de quand ils ont caché ce château.
Voilà.
Donc, vous retrouvez tout ça, en fait.
On retrouve tout cela et beaucoup de carcasses d'animaux, puisque ça servait quand une vache ou un âne mourait, eh bien, on jetait la carcasse à la décharge. Donc, on va retrouver tout cela. Alors, évidemment, c'est un travail de titan. Tout se fait au grattoir à rosier, avec des petits outils, des petites pelles, des balayettes.
Je vous imagine tout à fait. Enfin, j'imagine.
Alors, évidemment, ça dépasse tout à fait le travail possible par une famille, même avec 4 enfants.
Hein. Oui, c'est sûr.
Donc, on va proposer à nos enfants d'inciter leurs amis. Vous savez, dans le nord de la France, il y a beaucoup de familles déshéritées qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances.
Oui, donc, en fait, vous arriviez de Lille.
On arrivait du nord de la France, oui, oui. De la banlieue de Lille. Et on va donc proposer à tous ces enfants de venir de prendre un billet de train pour Gourdon, en Quercy, et de venir nous aider des vacances, donc aider un peu à gratter la terre, et puis le soir, les belles veillées au coin du feu, avec une guitare, des chants, des petites brochettes, enfin tout ce qui plaît, évidemment,
extraordinaire.
À tous ces jeunes, ces enfants qui sinon resteraient dans leur cité.
Mais ils n'auraient pas de vacances.
Ils n'auraient pas de vacances, voilà. Et puis, on va faire appel aux scouts de Valenciennes aussi. Les scouts de France qui vont venir aider, parce qu'on va découvrir un trou dans une voûte. Mm-hmm. Et on pense qu'on arrive dans des caves, et pas du tout, on arrive dans la cuisine.
Et oui, parce qu'en plus, il faut
recaler
un petit peu l'intérieur du château.
Le haut.
On n'a pas, voilà, l'inverse d'une maison. Une maison est construite du bas vers le haut. Oui. Nous, imaginez-vous que l'on démarre du haut pour descendre.
Et oui.
Alors, les scouts de France, puis on va avoir rapidement les professeurs de nos enfants qui vont venir aussi, parce que les enfants racontent à l'école, au collège, au lycée, ce qu'ils font pendant les vacances dans un château en ruine, dans le Lot. On aura les professeurs, les proviseurs, on va avoir toutes sortes de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes retraités, tout ce monde qui va venir camper sur notre terrain.
Et travailler
à
la redécouverte du
château. Alors des historiens, des archéologues, c'est une découverte, mais qui n'est pas une découverte archéologique, c'est un dégagement de gravats.
Oui,
hein, j'insiste,
on ne cherche rien, on enlève la terre qui a été jetée
par la population pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Alors, on continue à creuser et c'est ainsi qu'en 2000, on va découvrir la carcasse du château. Donc, un bâtiment qui n'a l'air de rien Et nous avons dans nos amis des architectes à Lens qui vont venir passer leurs vacances avec nous. Et puis, on va, avec l'ordinateur, rentrer les cotes, les mesures du bâtiment. Et avec les logiciels en 3D, on va voir apparaître un jour, en 2000, la physionomie de ce bâtiment.
C'est magnifique.
L'histoire est assez imprévue et extraordinaire, parce que je crois que quand vous êtes descendu de Lille pour passer quelques vacances dans le Lot, vous n'imaginiez jamais découvrir un château.
Non, pas du tout. Ça n'était pas du tout dans notre optique. Avec une famille nombreuse, oui. On veut des vacances tranquilles.
Effectivement, oui.
Voilà, donc jamais on aurait imaginé, évidemment, créer un tel projet et le vivre, n'est-ce pas? C'est une aventure humaine faite d'énormément de rencontres. On a eu des jeunes des banlieues défavorisées qui, grâce à cette unité autour d'un projet collectif, ces jeunes vont travailler. Le château de Lanty, c'est à l'écart de toute ville, donc il n'y a pas de tentation qui puisse.
Ça va très bien dans le carême, nous sommes en période de carême au moment où nous faisons cette émission, donc ça va tout à fait.
Voilà, donc ces jeunes vont travailler, ces jeunes qui étaient sans travail, qui sans diplôme, souvent déjà un peu engagés dans la délinquance. Alors ici, il n'y aura aucune tentation, ils vont travailler, ils vont trouver une famille, ce qu'ils n'ont pas, bien souvent, c'est ce qui manque, et ils vont œuvrer, et tous, de retour dans le nord de la France, vont travailler. Les 8 scouts que l'on a eus cette année-là vont tous prendre des études. Donc certains vont devenir infirmiers, d'autres brancardiers, d'autres vont s'investir dans l'informatique, vont passer des bacs alors qu'ils étaient en déshérence. Et tous vont trouver du travail. Et tous les jeunes que nous avons eus, grâce au travail et à une unité familiale, vont se projeter dans la vie. Et il n'y en a pas un seul qui va rester sur le côté. Alors ces jeunes, on est en 2022 maintenant. Ils sont maintenant tous adultes. On les a eus à 15, 16, 17, 18, 20 ans. Tous maintenant sont en couple avec des enfants et reviennent dire bonjour 2, 3, 5 jours, 8 jours et aider encore au château.
C'est
dommage que ça ne se passe pas ailleurs. Ça aiderait beaucoup de
sûrement,
nombreux jeunes.
Sûrement. Alors, donc, avec tous ces jeunes et toutes ces personnes qui sont contactées petit à petit, justement, de bouche à oreille, si je peux m'exprimer ainsi, vont venir vous aider à remettre à flot ce château. Mais pour vous, vous n'étiez pas dans la partie patrimoine ou dans la partie restauration dans votre métier.
Alors effectivement, nous étions kinésithérapeutes, ce qui est très loin du bâtiment. La mise en évidence du travail à faire en 2000, quelques moyens suite à un héritage, donc on va laisser faire des entreprises monuments historiques. Nous, on est simplement spectateurs.
Tout à fait.
On aurait pu rester spectateur si n'était pas arrivé un incident en 2004 lors d'un gros orage, mai 2004. Une boule de feu, ce qui est un phénomène rare, va pénétrer au travers d'une des tours du château. Et c'est une boule de gaz, en fait, qui va faire exploser la tour. Le château va prendre feu. Les pompiers du Lot, très courageux, vont essayer d'arrêter, d'éteindre l'incendie sans y parvenir. Et le château va brûler pendant 3 jours.
Quelle a été votre réaction quand vous avez vu ce château
Alors,
brûler?
Alors, grâce à Dieu, on va rester en vie, puisque ce soir-là, il y avait un match de foot. Et le seul endroit où il y ait la télévision, c'était la petite dépendance avec le four à pain. Et on était donc là, avec nos enfants, à regarder le match de foot, puisque j'ai 3 fils et une fille. Évidemment, les garçons voulaient voir le match de foot.
Si je peux me permettre, Deo gracias.
Deo gracias. Si nous avions été dans le château, nous aurions été carbonisés, puisqu'à l'intérieur du château, il y avait des échafaudages dans toutes les pièces. Les échafaudages, vous avez peut-être vu à Notre-Dame, oui. Ça finit par fondre avec la chaleur.
Oui,
ça devient un matériau un peu comme le chewing-gum et absolument dramatique, puisqu'on n'aurait pas pu descendre.
Et donc, à partir de là, que s'est-il passé pour le château?
Alors, nous allons assister pendant 3 jours à l'incendie, donc il va bien brûler le premier jour. Et comme il y a du vent, chaque nuit, les poutres en chêne vont reprendre feu. Il faut dire que pour ce faire, les ouvriers du bâtiment... cette entreprise Monument Historique avait remonté le haut des murs sur 1 mètre. On avait fait venir des poutres en chêne de 10 mètres de long et 52 sections des Pyrénées, puisqu'il n'y en a pas dans le Lot, on n'a que des petits chênes tordus, et 40 000 tuiles venaient du Jura.
D'accord. Oui. Et tout ça disparaît.
Tout ça disparaît. Alors, grand désarroi, évidemment. Après, on est quand même très heureux et on remercie le ciel d'être en vie, d'avoir eu ce match de foot ce soir-là. Sinon, je ne serais pas là à vous parler. Et après, ça va être compliqué avec les assurances. Comme tous les sinistrés, on aura quelques problématiques pour se faire rembourser. Enfin, au bout de 2 ans quand même de procédure, on va... avoir l'assurance qui va rembourser une partie, pas tout, comme tous les sinistrés, évidemment, il y a la part qui reste à l'assureur. Et le château va pouvoir redémarrer grâce au crowdfunding.
Voilà.
C'est le mécénat participatif. Où les entreprises ou les personnes individuelles peuvent participer selon leurs besoins, leurs possibilités à la restauration. Donc c'est le crowdfunding, c'est se fait à partir d'une plateforme participative qui s'appelle D'Artagnan et Bercy évidemment qui chapeaute l'ensemble.
Et donc, vous nous avez dit que vous étiez kinésithérapeute, mais il me semble que ce n'est pas votre profession actuelle.
Exactement. À la suite de cet incendie, s'est posé un énorme problème financier, comme tous les sinistrés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'une colline, ça peut se revendre. Un bâtiment debout, ça se vend. Un bâtiment brûlé, ça ne vaut rien.
Eh oui.
Donc,
d'autant plus que là, il n'était pas caché.
Il n'était plus caché, il était carbonisé. Alors, ça a commencé le changement de profession, tout simplement parce que la pierre calcaire du Lot brûle en superficie. Donc, c'est du calcaire, ça, comme la craie, ça brûle. Et il fallait buriner au marteau et au burin chaque pierre pour enlever ce centimètre brûlé, de manière à faire réapparaître l'ocre de la pierre. Alors, les compagnons du Tour de France, qui œuvraient donc à partir de 2006, m'ont proposé spontanément de participer au chantier, puisque un marteau et un burin, n'importe qui peut le tenir, et il suffisait de faire sauter cette partie brûlée. Ça, le travail, évidemment, puisque on nage dans la cendre. Et puis, de fil en aiguille, des pierres étaient complètement abîmées. Le chef de chantier m'a proposé de tailler des pierres, parce qu'évidemment, 2 bras de plus, c'est le travail qui avance plus vite. Et de fil en aiguille, j'ai pu travailler avec l'équipe. Donc, seule femme du chantier, les cheveux coupés courts, le bonnet sur la tête et un habillement qui ne fasse pas apparaître ma féminité. Et donc...
Et votre prénom aussi qui a changé,
et le prénom qui devient, comme tous les compagnons, Cyr.
D'accord, avec un Y.
Avec un Y, C-Y-R. Donc, je travaille sur le chantier, ce qui fait avancer le chantier. L'architecte des bâtiments de France dira « Ce que vous ferez, madame, ne sera plus à faire », évidemment. Donc, je m'initie au métier du bâtiment. J'abandonne mon métier de kinésithérapeute. Et ceci permet au bâtiment de se restaurer un petit peu plus vite.
Eh bien, écoutez, Françoise, merci pour cette deuxième émission, parce que là, nous sommes pour quelques émissions encore. Merci de nous avoir expliqué tout cela, mais nous continuerons dans la prochaine émission de la semaine prochaine toute cette histoire autour du château de Lantis. Merci beaucoup pour votre accueil très chaleureux. Merci Marie-Madeleine.
De pas grand-chose.
Mais bon, quand même, vous êtes là pour...
Merci infiniment.
Voilà. Et au revoir à nos chers amis auditeurs.
Au revoir. Au revoir à tous. À très bientôt.
À très bientôt. Et donc, surtout, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.